Bonsoir à chacun. Ouvrons sans tarder le Saint-Livre. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 63, à partir du verset 9, nous allons conclure la prédication de mardi dernier, à savoir l'importance de la présence de Dieu. Si vous étiez là la semaine dernière, vous vous souvenez que nous avons abordé le fait que malgré que le Seigneur nous promette sa présence, c'est une promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous avons vu également qu'il y avait un avertissement, vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence, et nous avions également ajouté cette parole de Jésus qui, avant de remonter au ciel, a dit « Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, convaincra le monde de péché ». Nous en avions déduit que pour Dieu, ce n'est pas une difficulté de convaincre les pécheurs de péché. La difficulté pour Dieu, c'est de pouvoir mettre sa présence dans l'Église, de trouver une Église qui se sanctifie, une Église qui obéisse. Je répète, c'est très très important. Nous avions pris l'exemple d'Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, où nous avions vu que pour Dieu, donner la vie à des ossements desséchés, ce n'était pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de trouver des hommes comme Ézéchiel qui vont obéir à Dieu et faire ce que Dieu veut que nous fassions pour que cette affaire se reproduise dans notre vallée toulousaine qui est remplie d'ossements desséchés au niveau spirituel. Donc ce soir, nous allons terminer cette prédication en lisant Ésaïe, chapitre 63, à partir du verset 9. Nous allons partir d'une promesse et nous allons lire jusqu'à la solution. Ésaïe, chapitre 63, verset 9. « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, retenez bien ce mot, vous voyez, ça vous rassure? Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé ton Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots comme un coursier dans le désert sans qu'ils bronchent, comme la bête qui descend dans la vallée? L'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ton zèle et ta puissance? Le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire et jamais l'œil n'a vu que notre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité, parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps, jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi, aussi nous as-tu caché ta face. Amen. Et la solution, elle est dans ce verset. Si nous ne voulons pas que la face du Seigneur nous soit cachée, nous devons nous réveiller, nous attacher à lui et invoquer son nom. Il y a dans cette lecture que nous venons de faire, bien sûr, le cœur d'Ésaïe qui se répand devant Dieu, qui exprime sa souffrance, qui exprime sa peine, mais en même temps, au travers de cette prière de demande de pardon, cette prière de repentance, il y a tout un enseignement, c'est pour ça que Dieu a voulu qu'elle soit dans la parole de Dieu. Nous voulons que Dieu brûle certaines choses, comme nous venons de le chanter si bien. C'est vrai que nous avons la joie du Seigneur. Qui ne l'a pas? Si vous ne l'avez pas, vous êtes bien malheureux. Mais on peut avoir la joie du Seigneur et en même temps être pleinement conscient que Dieu n'en a pas terminé avec chacun de nous et qu'il y a des choses qui doivent être changées dans notre cœur. J'ai volontairement voulu commencer la lecture par ce verset 9. On va disséquer un petit peu cette lecture que nous venons de faire pour cette soirée. Pour que nous nous souvenions quand même que nous avons affaire à un Dieu qui, malgré notre désobéissance, malgré notre rébellion, malgré notre détresse, sera toujours notre secours. Est-ce que vous le savez ça? Il sera toujours notre secours. Il est notre Dieu. À partir du moment où nous l'avons accepté comme sauveur et comme Seigneur, il devient notre Père. Et nous pouvons dire que dans toutes nos détresses, nous avons affaire à quelqu'un qui nous accordera son secours. Vous le croyez ça, mes frères et sœurs? Dieu nous donnera son secours. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il fait allusion au fait que dans le désert, qui devait durer, vous pouvez me dire combien devait durer le désert pour les Hébreux lorsqu'ils sont sortis d'Égypte? Combien il devait durer? Tous les théologiens pensent que ça aurait dû durer 3 semaines maximum, à peu près. Certains disent 15 jours, pour ceux qui marchent vite. Mais soyons sérieux, ce désert aurait dû durer, allez, 40 jours. Ce désert a duré combien de temps? Là, on le sait par contre. 40 ans. 40 ans, ce désert a duré. Vous vous rendez compte, à la place de durer 3 semaines, 15, 3 semaines, 40 jours, 40 ans. Et quand vous lisez, on va le lire, dans 1 Corinthiens au chapitre 10, on va prendre quelques lectures pour que vous compreniez ce processus que nous devons comprendre pour que tout à nouveau le Saint-Esprit agisse dans nos églises. C'est ce que vous voulez, que le Saint-Esprit agisse dans l'église? Mais de toute façon, si vous voulez autre chose, ben, vous n'aurez rien de toute façon. Parce que sans l'Esprit, ça ne sert à rien. Donc vous pouvez me dire, oui, on veut ci, on veut là, ben, ça ne sert à rien. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 6. Regardez avec moi, 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 6. Il rappelle ce qui s'est passé dans le désert. Et il y a quelque chose d'extraordinaire que nous devons comprendre parce que beaucoup de chrétiens sont un petit peu dans le flou par rapport à ce qui s'est passé dans le désert. Mais lisez avec moi et vous n'aurez plus ce flou, croyez-moi. 1 Corinthiens 10, verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Bon, Dieu les conduit dans le désert pour qu'ils fassent certaines expériences. Ce désert, ils n'ont rien compris parce qu'ils n'étaient intéressés que par la bénédiction et pas par la crainte de Dieu. Le résultat, c'est qu'ils sont passés à côté. Pourtant, est-ce qu'ils avaient un bon pasteur? Dites-moi, est-ce que d'après vous, les Hébreux à cette époque-là avaient un bon pasteur dans la personne de Moïse? Oui. Nous voyons que le problème du pasteur est un vrai problème. Mais ce n'est pas le pasteur qui détermine la bénédiction. C'est l'ensemble de l'Église qui décide d'obéir à la parole de Dieu. Nous voyons donc que Jésus était avec eux, Dieu était avec eux, puisqu'il est dit que ce rocher qui les suivait, c'était qui? C'était Christ. Donc, le Seigneur était avec eux dans le désert. Mais ils sont passés à côté. Et le résultat, c'est qu'ils sont morts dans le désert, ça ne veut pas dire qu'ils sont partis en enfer. Bien sûr que ceux qui ont obéi à Dieu sont partis au ciel, malgré le fait qu'ils soient passés à côté de cette bénédiction. Mais si nous lisions la suite, si nous lisons, regardez, on va lire le verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas eu de mauvais désirs comme ils ont eu. Donc, il est parlé des mauvais désirs. Verset 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ah, ça, le divertissement, ça, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de chrétiens qui en veulent, dans l'Église. Et laissez-moi vous dire que le divertissement n'amènera pas les pécheurs à la repentance. Je crois qu'il y a un temps pour se détendre. Je fais la différence entre se détendre sainement et le divertissement pour essayer de faire plaisir aux gens. Voilà, il faut faire plaisir aux pécheurs, il faut de l'ambiance dans les églises. Non, non, non. Le divertissement, laissez-moi vous dire que ça n'amènera pas la bénédiction du Seigneur. On va voir ce soir ce qui peut se passer lorsqu'on n'obéit pas au Seigneur. Voyez, les mauvais désirs, l'idolâtrie, le divertissement. Verset 8. « Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 à un seul jour. » Vous savez, par un pasteur, justement, qui a mal agi. Vous savez comment... Ça, c'est terrible. Quand on lit ces choses, c'est rappelé dans le livre de l'Apocalypse que Balaam a poussé des femmes étrangères à aller coucher avec les soldats hébreux. Et vous avez vu la pagaille que ça a mené. Et vous savez, quand on autorise aujourd'hui dans les églises la fornication parce que la loi autorise ceci ou cela, laissez-moi vous dire que ça n'amène pas la bénédiction. Alors, on va pas s'attarder là-dessus. Verset 9. « Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. » Beaucoup de personnes aujourd'hui sont très 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 superficielles avec certaines formes de tentation. Vous savez, quand ils étaient dans le désert, ils ont commencé à s'en prendre à Moïse. Oui, le Seigneur est-il au milieu de nous? Le Seigneur n'y est-il pas? Parce que Dieu n'agissait pas comme il voulait. Comment vous vous comportez quand Dieu n'agit pas comme vous le voulez? C'est une vraie question, c'est une très bonne question, ce n'est pas une question qui est de mon ressort, mais c'est quand même une question qui ressort de la parole de Dieu. Comment nous comportons-nous quand Dieu n'agit pas comme nous le voudrions? Est-ce que nous commençons à nous énerver? Est-ce que Dieu est là ou est-ce que Dieu n'y est pas? Dieu appelle cela de la tentation. Et à un moment donné, ça les a enfermés encore plus dans cette misère. Voilà. Quand on ne comprend pas, il vaut mieux faire ce que Jérôme nous a conseillé tout à l'heure dans le chant, qu'on soit dans le désert, qu'on soit dans l'abondance. Seigneur, je choisis de te faire confiance. Voilà l'attitude qui plaît vraiment à Dieu. Verset 10, « Ne murmurez pas, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. » Alors rien que ce texte pourrait nous servir, bien sûr, pour toute une prédication, pour que nous comprenions que dans le royaume de Dieu, nous devons veiller à toutes ces attitudes. Dans le monde, murmurer, la tentation, le divertissement, tout ça, ce n'est pas du tout mauvais. Mais laissez-moi vous dire que quand ça prend le contre-pied de la vie spirituelle, croyez-moi que Dieu n'est pas du tout d'accord. Et le résultat, ils sont passés à côté. Je ne sais pas vous, nous sommes là ce soir, combien on est, je ne sais pas, en juillet 2013. Est-ce que vous voulez passer à côté de la bénédiction? Vous qui avez des enfants, vous qui allez en avoir, est-ce que vous y pensez ça? Vous en avez? Il y en a qui ont des enfants ici? Est-ce qu'il y en a? Jérémy, tu as des enfants? Tu en as trois, petits. Est-ce que tu veux qu'ils connaissent la bénédiction de Dieu, etc. On pourrait faire le tour de l'église et vous verriez que rien que le peu de chrétiens que nous sommes ce soir, ça représente beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Est-ce que rien que pour nos enfants et nos petits-enfants, est-ce que ça vaut la peine que nous ayons une église qui soit bénie du Seigneur? Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, rien que cela, est-ce que nous nous rendons compte? Mais combien nous ne voulons pas passer à côté? Et pourtant, nous avons un Dieu, voyez, qui bénit. Dieu dit, dans ce texte, dans ce premier texte qu'on vient de lire, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Peut-être qu'on a facilement oublié tout ce que Dieu fait pour nous, comme on peut facilement oublier ce que nos parents ont fait pour nous. Est-ce que vous pensez des fois sur tout ce que vos parents ont fait pour vous? Est-ce que vous y pensez? C'est des choses qu'il ne faut jamais oublier. Que vous oubliez ce que vos parents ont fait, peut-être c'est pas, je ne sais pas. Mais n'oubliez jamais tout ce que Dieu a fait pour vous. N'oubliez jamais. Alors, maintenant, on va voir tout le côté négatif, dans le sens où, à partir du verset 10, on comprend pourquoi Dieu n'agit pas. Si nous voulons que Dieu agisse, je le dis, il faut, comme on l'a vu au verset 6 du chapitre 64, il trouve des hommes, des femmes qui se réveillent. Pas qui prient pour faire des prières, mais qui se réveillent véritablement de cet état spirituel qui nous assoupit et qui nous rend tiède. Mais voyez, ils ont été rebelles. Ils ont attristé ton Esprit Saint. Un chrétien qui attriste le Saint-Esprit, est-ce que c'est possible? Moi, je croyais qu'il n'y avait que les pécheurs qui attristaient le Saint-Esprit. Est-ce qu'un chrétien peut attrister le Saint-Esprit? Eh bien oui. Il y a des textes dans la Bible où nous devrions, qui devraient nous faire vraiment réfléchir. Par exemple, dans Éphésiens, on va le lire. ce texte qui nous dit, Éphésiens chapitre 4, verset 30. L'autre jour, j'ai reçu un mail, vous savez, j'en reçois tous les jours des mails, une dame qui m'écrivait, une chrétienne, qui m'écrivait pour me dire qu'elle ne voulait pas pardonner. Parce que là, non, j'estime que c'est trop, il m'a fait trop souffrir, donc je ne pardonne pas. Voilà, je pense que je suis dans mon droit, etc., etc. Cette personne, j'allais dire cette sœur, oui, cette chrétienne, est-ce qu'elle ne va pas attrister le Saint-Esprit? Mais c'est évident. C'est évident. Quand on commence à s'autoriser, à dire, mais moi, je ne pardonne pas. Regardez ce qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et il explique au verset 31 ce qui attriste le Saint-Esprit. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. On n'a pas besoin de délivrance, on n'a pas besoin de chasser ces choses. Il faut que ça disparaisse. Renoncer à ces choses, dit la parole de Dieu. Mais voyez, la rébellion, ça commence comme ça. On attriste le Saint-Esprit. Ils ont été rebelles, ils ont attristé ton Esprit Saint. Donc, après, il y a ceux qui réjouissent le Saint-Esprit. Dans la parole, il y a des choses qui réjouissent le Saint-Esprit. Bien, on ne l'a pas lu, mais on peut le lire. Qu'est-ce qu'il est écrit juste après ? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et je nous pose la question ce soir, nous sommes sous le regard de Dieu, est-ce que vous pardonnez ? Est-ce que vous pardonnez ? Répondez-vous, ne me répondez pas à moi, mais répondez au Seigneur en tous les cas. Est-ce que vous pardonnez ? Est-ce que vous pardonnez ? Le mal qu'on vous a fait ? Est-ce que vous vous pardonnez ? Parce qu'il y a des gens qui ne se pardonnent pas. Vous avez fait des erreurs ? Est-ce que vous avez fait des erreurs ? Personne n'a fait des erreurs. C'est bien. Je savais quand même que j'avais une église en bonne santé. Moi, j'en ai fait. Eh bien, je peux vous dire que c'est important d'apprendre à se pardonner. Vous entendez ? Parce que nous pouvons aussi attrister le Saint-Esprit si nous ne nous pardonnons pas. Moi, j'ai connu une dame qui venait ici, qui avait fait une tentative de suicide, et son mari l'a abandonnée. Et ses enfants sont partis. Ils ont préféré aller chez le papa parce que ces enfants qui étaient petits, ils avaient 7 ans, 8 ans, ils ont été affolés. Et cette femme s'en est sortie, elle s'était jetée du 5e étage. Elle s'en est sortie, mais elle est restée paralysée. Mais je sais que je l'ai suivie pendant un moment, puis je l'ai perdue de vue. Et cette femme, pendant 15 ans, elle a vécu dans l'angoisse et le tourment parce qu'elle ne se pardonnait pas. Et moi, et je lui ai dit, mais il vous faut apprendre à vous pardonner. Et je vous assure, mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu peut ne pas se faire dans une vie ou dans une église parce que nous choisissons de ne pas pardonner. Alors moi, quand j'entends des gens qui disent qu'on a besoin d'une délivrance, non, la Bible ne parle pas de délivrance pour le pardon. La Bible dit pardonnez, voilà, comme Christ vous a pardonné, renoncez à toutes ces choses, voilà, faites mourir ce qui est terrestre, ce qui est charnel. Vous voyez, on se demande, mais pourquoi l'œuvre de Dieu ne se fait pas comme elle devrait se faire ? Moi, je crois, comme je l'ai dit mardi dernier, que quand un pécheur entre dans l'église, même si le diable essaie de le troubler, de le détourner, je crois que la puissance de Dieu est beaucoup plus grande pour le convaincre de pécher. Vous le croyez toujours, cela ? Voilà. Mais il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il ne faut pas l'attrister. Et vous devez dire, mais oui, bon, là, on m'a fait du mal, là, j'ai mal réagi. Est-ce que j'ai vraiment pardonné ? Je pardonne, oui. Je pardonne, mais il n'a pas été recommencé. Mais ouais, ça vous fait rire, mais on l'entend, ça. Moi, je crois qu'il faut vraiment pardonner, comme Christ nous a pardonné. Quand on le crucifiait, vous connaissez ce qu'il a dit. On l'a crucifié, je veux dire. On ne peut même pas s'imaginer. Vous savez ce qui est sorti de sa bouche, Père, pardonne-leur. Il a demandé à Dieu, parce que bon, je ne veux pas faire la théologie ce soir. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Ça veut dire que lui, il avait déjà pardonné. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je suis clair ? Il avait déjà pardonné. Et nous devrions, nous aussi, choisir de pardonner tout le mal que l'on nous fera, toutes les offenses que nous subirons. Si nous voulons voir l'œuvre de Dieu se faire, il faut vivre dans le pardon. Moi, je suis choqué presque, peiné, lorsque j'entends un chrétien qui dit « Ah non, moi, non, je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas, je n'ai pas pardonné, de toute façon, il ne comprend rien. » Eh bien voilà, on s'étonne que l'œuvre de Dieu ne se fasse pas. Moi, je vous assure, ce sont des choses profondément graves. N'attristez pas le Saint-Esprit. Regardez la fin du verset 10, ce sont des choses qu'il faut lire. Bien sûr qu'aujourd'hui, on ne les lit plus, on ne veut plus entendre parler parce que ça nous remet trop en question, etc. Mais regardez ce qui s'est passé en parlant du Saint-Esprit. Il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. C'est une affaire terrible, ça. Quand à la place que Dieu combatte pour vous,
ils combattent contre vous. Est-ce que c'est déjà arrivé dans la Bible que Dieu combatte contre son peuple ? Ben, lisez la Bible et vous verrez. Lisez le livre des Juges et vous verrez le nombre de fois où Dieu a combattu contre son peuple. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il désobéissait. Alors il y a des gens qui vous disent « Non, c'est pas possible. Dans le temps de la grâce, ce n'est pas possible. » Eh bien moi, je vous dis que c'est possible. On peut chanter toute la nuit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Nous lever, taper des mains, monter sur les chaises, tout ce que vous voudrez. On ne fera aucun exploit si nous attristons le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est de notre responsabilité à chacun de réfléchir, d'utiliser ces moments de réflexion, de méditation, d'exhortation, ce que vous voudrez, ou d'étude, pour dire, mais que j'en sois, que je sois ce chrétien qui, malgré le fait que je sache que tu seras toujours mon secours, eh bien, je m'applique à ne pas t'attrister, je m'applique à ne pas faire en sorte que tu combattes contre moi. Parce que je ne prends pas le temps de vous l'expliquer, mais on pourrait prendre pour chaque cas des textes bibliques qui justifient bien sûr ce que je vous dis. Vous comprenez bien que la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Est-ce que vous vous rendez compte ? Quand on attriste le Saint-Esprit, à la place de faire en sorte que Dieu combatte pour nous, il combat contre nous. Et on pourrait prendre les textes, mais le temps me manque bien sûr. Il est devenu leur ennemi. Alors après, du verset 11 au verset 14, il y a une espèce de nostalgie. Voyez, alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fait monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, etc., etc. On voit que la bénédiction de Dieu n'est plus qu'un souvenir. Vous le méditerez, je vous encourage à le faire, mes frères et sœurs. Il ne faut pas que la bénédiction de Dieu soit un souvenir. Oh, il y a 10 ans, j'ai vécu des choses avec Dieu, formidable. Est-ce que c'est bien les bons souvenirs ? Mais bien sûr que c'est bien. Les mauvais aussi parfois, parce que ça nous enseigne beaucoup. Mais ne vivons pas dans une espèce de nostalgie par rapport à notre passé. Oh, de ce temps-là, quand je regarde la photo, oh, c'était le bon temps. Il y a des gens, ils vivent. Le bonheur qu'ils ont, c'est par rapport à des choses passées. Béni soit Dieu pour les expériences passées. Mes frères et sœurs, ce n'est pas les expériences passées qui nous importent, c'est aujourd'hui, c'est ce soir, de pouvoir dire oui, ce que j'ai chanté, je le pense. Tu vas brûler, Seigneur, dans mon cœur, ce qui a besoin d'être consumé, afin que ma vie soit véritablement à ta gloire. Son peuple se souvient. Tout ça, ça a été écrit pour que l'on réfléchisse, que si nous passons à côté, eh bien nous allons parler. Et des fois, j'entends, oh, du temps de tamponnière, moi, je ne suis pas que ça ne me gêne pas, moi. Un jour, on m'a dit, ça ne vous énerve pas, comme je dis, mais moi, ça ne me fait rien du tout. Moi, ce que je crois, c'est que Dieu bénit du temps de tamponnière, et Dieu peut bénir en 2013. Dieu ne fait pas de favoritisme, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous le savez, donc ce que Dieu a fait dans le passé ou ce que Dieu fait dans tel pays ou dans tel endroit, dans tel mouvement ou ailleurs, il veut le faire dans une église où on honorera sa parole. Ne vivons pas de souvenirs, c'est bien joli, les souvenirs, les bénédictions. Moi j'ai connu des chrétiens que quand je discutais avec eux, ils me parlaient d'il y a 30 ans en arrière. Ils étaient bloqués sur 30 ans en arrière. Oh, il y a 30 ans, monsieur Gau, j'avais le cancer, j'ai prié, et le Seigneur m'a délivré du cancer. Vous pouvez le revoir 6 mois après. Oh, monsieur Gau, vous savez pas, il y a 30 ans, j'ai eu le 30 ans et 6 mois, j'ai eu le cancer et j'ai été délivré. Franchement, c'est bien, mais vous ne trouvez pas que c'est dommage de rester bloqué à des expériences d'il y a 30 ans? C'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que nous vivions dans cette espérance, dans cette confiance, où les bénédictions d'aujourd'hui seront en tous les cas pour nos enfants. Je connais un pasteur qui me disait, quand j'étais petit, à 8 ans, le mardi soir, avec mes parents, on allait à l'église, et j'étais debout sur la chaise. Ah bon? Et qu'est-ce que tu faisais? Il me dit, j'étais debout sur la chaise, l'église était pleine, parce qu'on voyait des miracles dans l'église. C'est pas beau ce témoignage? Vous aimeriez pas que nos enfants de 8 ans, le mardi soir, ils soient debout sur les chaises, en train de regarder des miracles dans l'église? Est-ce que Dieu veut le refaire? Moi, je le crois. Je le crois vraiment. Mais quand vous écoutez les chrétiens, je peux vous dire que la réunion de prière, ils étaient plus nombreux qu'au culte des fois, tellement ils étaient embrasés et ils venaient prier et supplier Dieu. Vous savez, c'est la première des choses que Dieu a demandé. Ma maison sera appelée une maison de prière. À partir du verset 15, on sent qu'il y a cette espèce de tristounette qui se passe. Regardez Isaïe, verset 15. « Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse, où sont ton zèle et ta puissance. » Ils sont en train de commencer à regretter la présence de Dieu. « Le frémissement de tes entrailles, de tes compassions, ne se font plus sentir envers moi. Vous savez, moi j'ai tout le temps, vous me connaissez, j'enseigne depuis toujours qu'il ne faut pas mélanger les sentiments et la spiritualité. Je l'enseigne parce que beaucoup de chrétiens sont partis dans des fausses doctrines à cause de ce mélange. Mais il n'empêche que s'il ne faut pas mélanger les deux, si la parole de Dieu doit être une épée qui sépare ce qui est psychique de ce qui est spirituel, il n'empêche que la présence de Dieu peut vraiment se ressentir dans un cœur. Sa paix immense peut vraiment se ressentir. Et ce texte, « Tes compassions ne se font plus sentir envers moi », nous voyons le témoignage d'un homme qui ne ressent plus la bénédiction de Dieu dans sa vie de tous les jours. Est-ce que l'on peut être touché par la présence de Dieu, par la paix de Dieu? Mais oui, moi je le crois. Je le crois vraiment que tous les jours, dans l'épreuve, comme dans l'abondance, on peut sentir la présence de Dieu, au fond de son cœur. Après, il y a des gens qui me disent, « Oh, monsieur, vous avez senti la présence de Dieu ce matin ?» Je dis, « Non, vous savez, moi, je prêche, je m'applique. » Moi, vous savez que qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas, est-ce que Dieu est là quand même? Vous voyez? Alors, ça fait que beaucoup de gens vivent de ressentiments, d'émotions, etc. Ce n'est pas bon du tout. Mais il n'empêche que quand on est en communion avec Dieu, on sent sa paix, on ressent sa paix, sa faveur et son approbation. Et là, on voit un homme qui souffre parce qu'il ne sent plus ces choses. C'est clair. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, il y a une question, je ne sais pas si vous en posez, si vous vous posez des questions, si vous en posez au Seigneur. Au verset 17, il y a une question. Pourquoi, Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre la crainte, comme si c'était la faute de Dieu? Vous savez, si on est loin des voies de Dieu, laissez-moi vous dire que ce n'est pas la faute du Seigneur. C'est la sienne. Il y a des gens qui se retrouvent dans les choux, qui se retrouvent mal. Tout à l'heure, je discutais avec une jeune femme qui revient à Dieu, qui est heureuse comme tout de revenir à Dieu, et qui me disait, j'ai erré pendant 15 ans. Vous m'aviez prévenu, je n'en ai pas tenu compte. Voilà, j'ai payé cher. Mais je veux revenir à Dieu. Quand on erre, c'est pas Dieu qui nous fait errer. C'est nous qu'on s'égare du Seigneur. Vous rappelez l'exemple de Caïn, comment il a erré. Est-ce que c'est la faute à Dieu s'il a erré? Mais non, c'est lui qui a choisi d'errer loin de ses voies. Après, on passe au verset 18. Alors, il y a une constatation. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce verset. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Parce que c'est quand même ce qui va arriver dans les églises, on n'honorera pas la parole. Vous connaissez la prophétie qui détermine l'enlèvement de l'église. Il nous est dit que l'apostasie consiste à quoi? Est-ce que quelqu'un peut me la citer, la prophétie? Que l'ennemi ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte jusqu'à quel point on se sera laissé aveugler de laisser les choses du monde diabolique rentrer dans les églises, à tel point qu'il se proclamera lui-même Dieu. C'est toujours ce qu'il a voulu, et il va arriver à ses fins. Pourquoi? Parce qu'on l'aura laissé faire. Et les seuls endroits où le diable ne rentrera pas, c'est les endroits où on honorera la parole du Seigneur. C'est pour cela que nous devons veiller les uns sur les autres à faire en sorte de ne pas attrister le Saint-Esprit. Vous voyez, ça commence, quelqu'un, il y en a qui, je le sais, j'ai l'habitude, « Oh, monsieur Gon, on va pas en faire tout un plat, c'est pas grave. » Mais ça commence avec des choses pas graves. Dans un couple, quand je vois moi, les couples chrétiens qui ont divorcé, ça a commencé avec des broutilles. Des trucs, oh, c'est pas grave, ça, si on le règle pas. Mais quand le soleil commence à se coucher sur la colère, moi, j'ai lu que la suite, elle est terrible. Parce qu'on donne accès au diable. Et on s'étonne, mais on ne devrait pas s'étonner. Et si on était sérieux, on ne serait certainement pas étonné. Vous voyez, on commence par attrister le Saint-Esprit, malgré les promesses, et le résultat, c'est que nos ennemis ont foulé le sanctuaire. Et moi, j'ai pas envie que dans l'assemblée où je suis, eh bien, on laisse l'ennemi s'infiltrer par toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Je pense que vous êtes là dans ce même sens que moi. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Alors, je pense à tous ces jeunes, sérieusement. Je vois mon fils et ma future belle-fille, mais je vois tous ces jeunes vous allez vous marier, Dieu va vous donner un conjoint. Donnez une belle église à vos enfants. Si Jésus tarde, donnez-leur une belle église. Aujourd'hui, il y a des églises, il n'y a plus d'enfants. Je le sais. Tous les mois, il y a un jeune pasteur qui me dit, voilà, monsieur Gauche, je suis dans une église. Il n'y a aucun jeune. Vous voyez ce qu'on a gagné? En voulant faire plaisir aux jeunes, le résultat, c'est qu'il n'y en a aucun dans les églises. Parce que Dieu honore sa parole, il honore pas le bonhomme qui prêche. Dieu honore sa parole. Et si nous honorons la parole, le Seigneur nous bénira. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Ça fait quand même mal au cœur quand on lit l'histoire d'Israël, tout ce qui s'est passé, et ce que Dieu a fait du temple Vous rappelez ce temple où Dieu avait dit « Toujours il y aura mon cœur, toujours il y aura mes yeux ». Qu'est-ce qu'il est devenu le temple en 70? Il a été détruit. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas supporté ce qui s'y est passé à l'intérieur. Alors nous savons bien que l'Église ne sera pas détruite, mais l'Église sera enlevée. Et nous voulons être prêts pour ce jour où Dieu enlèvera l'Église. Verset 19, on pourrait l'écrire demain sur la dépêche, ça. « Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. » Alors, est-ce que vous êtes de ceux qui aimaient être gouvernés? Allez, répondez. Ça ne va pas durer longtemps. Est-ce que vous aimez obéir? Ou est-ce que Dieu pourrait dire de nous, vous êtes comme un peuple ingouvernable? Est-ce que vous pouvez dire, non, moi je veux obéir. Le Seigneur m'a montré ça. Je dois me comporter de telle manière, dans l'Église, dans la société, vis-à-vis de mon patron. C'est pas parce qu'au boulot, tout le monde utilise son ordinateur pour envoyer des mails et son portable, voilà, tout ce temps perdu. Voilà, moi je crois qu'un chrétien, au travail, il est sérieux avec son patron. Oui ou non? Franchement. Est-ce que vous seriez d'accord que moi j'utilise mon temps pour faire n'importe quoi? Je suis payé par l'Église. Est-ce que vous seriez d'accord? Non, vous diriez, c'est pas sérieux. Et voyez, et c'est un détail. Mais mes frères et sœurs, ne nous comportons pas comme les gens du monde. Moi, ma fille, elle a travaillé dans une boîte. Les gens, à moins 5, moins 10, ils partaient. Et ils lui ont dit, mais tu restes, toi? Eh bien oui, je reste, je travaille jusqu'à 5 heures. Travailler jusqu'à 5 heures, je travaille jusqu'à 5 heures. Ben non, t'as qu'à faire comme nous. Je dis non, je suis payé jusqu'à 5 heures, je reste jusqu'à 5 heures et je travaille. Alors on lui a dit, oui, tu es faillote, etc., etc. Vous voyez un petit peu? Et ça commence par des choses comme ça. Bien sûr, oh, c'est pas grave, avec tout l'argent qui nous mange dessus, etc. Mais le problème, il n'est pas là. C'est par l'obéissance que les choses se passent. Vous le savez, ce que Samuel a dit au roi Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et il y a des gens qui s'imaginent, qui font des sacrifices, oh, mais moi je donne beaucoup d'argent à l'Église, moi je me consacre à ci. Mais si vous n'obéissez pas, vos sacrifices, ça ne sert à rien. D'ailleurs, c'est le Salomon qui le dit dans l'Ecclésiaste, il dit, approche-toi de Dieu pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Ils ne savent pas qu'ils font mal. C'est ça, c'est-à-dire que je fais quelque chose, je sers Dieu, voilà, je fais ceci, je fais cela, mais je n'obéis pas. Et je sais que beaucoup de gens ont été choqués le jour, la première fois où j'avais dit, c'est pas parce qu'on prêche, c'est pas parce qu'un pasteur prêche qu'il obéit à Dieu. Oui ou non? Vous dites, tiens, bon, un pasteur prêche, donc il obéit. Non, ce n'est pas parce qu'on sert Dieu qu'on obéit à Dieu. Et nous devons tous nous poser la question. Et à quoi reconnaît un homme qui obéit à Dieu? Eh bien, il est gouverné, non pas par sa volonté, mais par la volonté du Seigneur. Et ça, ce sont des choses, vous voyez, qui progressivement ramènent la bénédiction dans l'Église. On avance un peu plus. À la fin du verset 19, il y a un soupir, puisqu'il y a le mot « haut ». Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Donc, voyez bien que pour Dieu, comme je le disais mardi dernier, il n'y a pas de problème. Est-ce que les cieux ont déjà été déchirés? Est-ce que quand Jésus est venu, franchement, est-ce que Dieu n'a pas déchiré les cieux? Est-ce qu'il n'y a pas cette bonne nouvelle quand même? Est-ce que les cieux ont été déchirés? Oui. D'ailleurs, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Moi, je crois que les cieux ont déjà été déchirés. Que le Seigneur Jésus a tout accompli au calvaire pour qu'il y ait une ouverture entre le ciel et la terre. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus, mais nous pouvons croire que le ciel a été ouvert, que Dieu veut qu'il soit ouvert, qu'il y a une porte, qu'il y a des fenêtres, qu'on peut véritablement avoir accès au ciel. Mais voilà, si tu obéis, j'ouvrirai le ciel. Je t'ouvrirai ton bon trésor, le ciel. Si tu nous obéis, ton ciel sur ta tête sera d'airain. Et nous devons savoir que le ciel, nous pouvons soit nous l'ouvrir ou soit le fermer. Et que lorsque nous obéissons, eh bien, nous ouvrons le ciel. Lorsqu'une église obéit, eh bien, le ciel s'ouvre. C'est pour ça que le diable il fera tout aussi pour faire en sorte que des chrétiens vivent continuellement dans le péché, pour qu'il y ait ce qu'on appelle un interdit. Moi, j'aime pas trop le mot interdit parce qu'on ne le trouve pas dans le Nouveau Testament. Mais enfin, qu'on utilise ce mot ou un autre, une chose est sûre, il peut y avoir obstacle à la prière. Comprenez ce que je veux dire. Ne pinaillons pas trop sur le mot, mais soyons sérieux par rapport aux conséquences. Et il peut y avoir ce drame, c'est-à-dire que le ciel soit fermé parce que des chrétiens, je ne parle pas des nouveaux qui découvrent l'évangile, je parle des chrétiens engagés qui servent Dieu, vivent dans le péché. Et cela peut faire obstacle à la prière. C'est écrit, quand il écrit « Marie, aimez vos femmes », etc., afin que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas important? Est-ce que ce n'est pas important dans une église de se soumettre les uns aux autres? Est-ce que ce n'est pas important? Toutes ces petites choses, elles ont l'air insignifiantes, mais toutes mises ensemble, elles permettent véritablement à Dieu d'agir. Si tu déchires les cieux, ils ont été descendus. Dieu a exaucé beaucoup de prières de ces hommes qui ont soupiré pour qu'il se passe quelque chose. Oui, oui, les cieux ont été ouverts. Je m'arrête là. Ésaïe 64, voyez, regardez bien, on voit, c'est facile à comprendre, que Dieu n'a pas de problème avec les pécheurs. Que le problème de Dieu, c'est l'Église. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom. Vous voyez que si vous prenez ce verset à part, vous voyez bien que ce n'est pas un problème pour Dieu que les ennemis du Seigneur apprennent à le connaître. S'il se passe quelque chose dans l'Église, nos ennemis, ses ennemis, connaîtront le nom du Seigneur. Est-ce que vous croyez que les gens qui se moquent de vous, parce que vous êtes chrétien, est-ce que vous croyez que s'il y a une action du Saint-Esprit, demain ce sont les premiers qui peuvent venir vous dire « Oh, donne-moi une Bible, je veux découvrir l'Évangile ». Est-ce que ça peut se passer? Mais oui, moi je l'ai vu plusieurs fois. Des gens qui se moquaient de moi, des gens qui se moquaient de nous, eh bien, qui sont venus crier à Dieu parce qu'ils voulaient faire la paix avec le Seigneur. Oui, voyez bien que Dieu n'a aucun problème avec les pécheurs. Nous on est là, oh celui-là c'est un cas désespéré, il est trop atteint, celui-là il est trop dans les ténèbres. Écoutez, c'est pas trop notre affaire. C'est le Saint-Esprit qui commet le péché. Nous, notre affaire, c'est de dire, voilà Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as mis dans cette assemblée, est-ce que je travaille et je fais en sorte que rien ne vienne faire obstacle à la prière? Si vous appreniez que je vivais dans l'adultère ou dans le mensonge, qu'est-ce que vous feriez? Tiens donc, qu'est-ce que vous feriez? Non mais parce que c'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous direz, bon, si vous qu'on dise... Mais voyez mes frères et sœurs, si vraiment on aime le Seigneur, quand on est au courant d'un péché dans l'Église, on devrait le faire remonter. Parce que je suis convaincu qu'une Église qui verra la gloire de Dieu, c'est une Église qui travaillera pour que le nom du Seigneur soit sanctifié. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Tes ennemis connaîtraient ton nom. Mes frères et sœurs, ne vous inquiétez pas du plus acharné des pécheurs, de plus enténébrés des pécheurs. Inquiétons-nous de notre piété à nous. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà, tu m'as placé dans cette église. Bon, vous voyez, moi, quand j'ai eu l'AVC, j'ai vite compris que Dieu voulait que je m'attache davantage à la parole de Dieu. Parce que c'est écrit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Mais moi, j'essayais bien sûr de faire plaisir un peu, enfin, entre guillemets. Voilà, monsieur Gouy, il faut aller voir un tel. Ça fait que je passais des semaines à faire 70, 80 heures minimum. Mais Dieu m'a arrêté. Et Dieu, il s'est arrêté quelqu'un, moi je vous le dis. Pour que l'on fasse ce qu'il va nous demander, ce qui est bien. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu vous arrête? Il a plusieurs façons de nous arrêter, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu... Non mais est-ce que vous êtes d'accord, Seigneur? Mais peut-être avant que tu m'arrêtes, moi je vais m'arrêter. Et me tenir devant toi pour que tu me montres. Parce que moi je crois que Dieu nous aime. Et qu'il ne joue pas cache-cache. Et que le Seigneur, il est capable de nous montrer, lorsqu'on se tient devant lui, s'il y a un péché, quelque chose qui foire, est-ce que Dieu est capable de nous le montrer? Sérieusement, si on prend du temps dans sa présence, qu'on prend sa parole, Seigneur, je t'en supplie, parle-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? J'en parlais à Aubagne dimanche, je me souviens de cette fois, Lucas n'était pas né, il y a plus de 25 ans, je me rappelle, c'était un séminaire où j'avais été, et j'avais supplié Dieu, j'avais dit, Seigneur, écoute-moi, je te demande une chose. Il y avait 5 ans que j'étais pasteur. Seigneur, je te demande une chose. Montre-moi si je suis un bon pasteur. Et j'arrive au séminaire, et le pasteur qui prêchait dit, voilà, je vais vous dire si vous êtes un bon ou un mauvais pasteur. Et bien sûr, j'étais dans la catégorie du mauvais. Dieu sait que j'ai pleuré de joie parce que Dieu m'avait parlé. Je pleurais, j'étais à ma place. Vous savez qu'on pleure, on est gêné. Je n'osais pas tourner la tête et tout. Mais Dieu me parlait.
Et je savais à ce moment-là que je... Voilà, un mauvais, tout le monde disait que j'étais mon pasteur. Bien sûr, je travaillais 16 heures par jour. Alors tout le monde dit, oh, qu'est-ce qu'il... Vous voyez, c'est sûr que tout le monde dit, oh, ce jeune, qu'est-ce qu'il est dévoué, qu'est-ce qu'il est fervent. Je travaillais 16 heures par jour. Qu'est-ce que vous vouliez que quelqu'un me dise? Mais je peux vous dire que Dieu, lui, n'était pas d'accord. Et Dieu m'a parlé. Et je vous assure que ce jour-là, Dieu m'a vraiment parlé. Et je suis convaincu que si chacun d'entre nous, nous sommes honnêtes, et si nous disons, Seigneur, tu vois, ma vie, tu vois, je suis peut-être marié, j'ai une femme, mes enfants, mais je te demande de me montrer quelle est ma place dans l'Église, qu'est-ce que tu attends de moi. Il y a des gens dans l'Église, ils ne font absolument rien, ils sont dans un danger terrible. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ne se tiennent pas devant Dieu pour savoir ce à quoi Dieu les appelle. Et nous nous enfermons dans ce drame de passer à côté des promesses. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, que si le ciel est ouvert, si nous obéissons, nos ennemis connaîtront notre nom. On continue, parce qu'il faut arriver jusqu'à la fin. Voyez, regardez, on peut lire, « Les nations trembleraient devant toi lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas. » Ça, c'est sûr que quand on obéit, Dieu peut faire des choses que nous n'attendons pas. Mais ça, c'est bien quand même. « Tu descendis, les montagnes s'ébranlèrent devant toi. » Jamais on n'a appris, ni entendu dire, jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux... Alors regardez bien, on commence à rentrer dans la solution. De telles choses pour ceux qui se confient en lui. Vous savez que j'ai souvent insisté sur la différence entre lire, prier, servir, et puis se confier en Dieu. Il y a une grande différence. Il y a des gens qui lisent, qui prient, qui vont à l'église, qui font tout, sans se confier en Dieu. La Bible dit que Dieu bénit ceux qui se confient en lui. Parce que, vous le savez, c'est pas parce qu'on prie, il y a des gens qui prient, et dès qu'ils ont fini de prier, ils sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils se confient dans leur prière. Ils ne se confient pas en Dieu, ils se confient dans la prière. Oh, ce matin, j'ai passé une heure dans la prière. C'est formidable. Mais une heure après, ils sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas confiés en Dieu. Ils se sont confiés dans le temps qu'ils ont passé dans la prière. Voyez un petit peu comment on peut se faire avoir. Mais la Bible est catégorique. Quand on commence à se confier en Dieu, vraiment, Seigneur, je te fais confiance. Je ne comprends pas ce que je traverse, mais ce n'est pas grave. Toi, tu sais. Alors, c'est moi, je choisis de te faire confiance. Je prie, ou je prie moins, quand je prie, quand je ne prie pas, quand je suis à l'église, quand je suis à la maison, que je sois avec des frères, que je sois avec des païens, je me confie en toi. Et ça commence à plaire à Dieu. Il y a quelque chose qui plaît encore plus à Dieu, au verset 4. « Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. » Il y a quelques années, j'ai fait plusieurs prédications là-dessus. « Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. » C'est un petit peu la même chose, sauf que c'est plus pointu, dans le sens où Dieu dit qu'il va vers ceux qui pratiquent la justice. Je l'ai dit, je le redis, c'est pas parce que je vais à l'église que j'obéis à Dieu. Quand je pratique la justice, je fais ce qui est juste. Vous voyez, il y a des gens qui me disent « Ah, oh, moi, je ne comprends pas. Il est dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tous les matins, je lis ma Bible. Tous les matins, je prie. La première chose que je fais quand je me lève, je lis ma Bible et je prie. Et je ne comprends pas, tout marche de travers. » Pourtant, il est dit que, mais si la première demi-heure, la première heure de la journée, je cherche Dieu, mais que tout le reste de la journée, je n'obéisse pas à Dieu, est-ce que je cherche le royaume de Dieu et sa justice? Mais non, c'est de la superstition, ça. Chercher le royaume de Dieu et sa justice, ça veut dire que toute la journée, j'obéis à Dieu. Et voyez dans quoi on peut tomber. D'ailleurs, que je fasse mon culte le matin, le midi ou le soir, Dieu est en premier, si toute la journée, Dieu est en premier. Et on pourrait lire un texte que j'aime beaucoup, mais alors là, sur la justice, il y en a beaucoup. Alors ça, c'est dans Actes au chapitre 10, verset 34. J'aime beaucoup ce verset, parce qu'il résume ce que je suis en train de vous enseigner. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui veulent être agréables à Dieu, qui veulent plaire à Dieu? Eh bien, lisez avec moi ce verset. Actes 10, 34 et 35. Si vous avez une concordance, par Internet, vous pouvez le faire. Vous tapez le mot « agréable » et vous verrez tous les textes qui nous montrent comment on est agréable à Dieu. Actes 10, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais quand toute nation, celui qui le craint, et qui pratique la justice, lui est agréable. » Alors, le temps me manque, mais je vous assure que c'était quelque chose d'important. Ça commence par là. Dans une église, l'action du Saint-Esprit est liée au fait, non pas que nous soyons là à toutes les réunions, ou que nous prions, ou que nous jeûnions, ou que nous donnons notre dîme, ce que vous voudrez. Voilà, je fais ça, bon, voilà, j'obéis. Non, de pratiquer la justice. C'est quelque chose d'incontournable. Dieu dit qu'il va au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Parce que si on fait les choses à contre-cœur, bon, je vais le faire parce qu'il faut le faire. Bon, je vais aller à l'église, il faut aller à l'église tous les dimanches. Bon, allez, je vais aller à l'église. Voilà, je vais aller à l'église, il faut aller à l'église. Voilà. C'est de celui qui pratique avec joie. Parce que franchement, quand vous connaissez le Seigneur, vous ne pouvez pas faire autrement que de le servir avec joie. Est-ce que j'exagère? Est-ce qu'il y a de l'exagération dans mes propos? Quand vous connaissez le Seigneur, est-ce que franchement, quand vous faites quelque chose pour lui, c'est une corvée? Ou c'est une joie? Est-ce que c'était une joie de faire chanter Jérôme? Ou est-ce que c'était une corvée? Hein, Monsieur Gou m'a demandé de faire chanter. Est-ce que c'était une joie d'amener l'auditoire dans ce moment où on élève notre âme vers Dieu? C'était une joie. Voilà. C'est des versets qu'il faut réfléchir. Voyez, on l'a lu une première fois, on refait une deuxième lecture. En le commentant, vous avez remarqué que le texte s'éclaire un petit peu plus. Je l'ai fait volontairement pour vous aider à méditer la parole de Dieu. C'est incontournable. Pratiquer la justice, c'est-à-dire que voilà, la réunion va se terminer dans 5 minutes. Je vais être dans la rue, dans ma voiture. Voilà, est-ce que je vais continuer à pratiquer la justice? Dieu va au-devant de celui qui pratique la justice. Est-ce que vous voulez que Dieu marche au-devant de vous? Mes frères et sœurs, je m'adresse à l'Église. Le mardi soir, vous savez que c'est surtout adressé pour l'Église. Je m'adresse aux chrétiens. Mes frères et sœurs, si nous voulons voir les cieux s'ouvrir, si nous voulons voir véritablement l'action du Saint-Esprit, ne l'attristons pas. Mais commençons à nous dire, voilà, je fais ci, je fais ça, c'est bien. Moi, le premier, je prêche, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas que je prêche. Ce qui plaît à Dieu, c'est que j'obéisse à Dieu. Que je pratique la justice. Et vous voyez, le psaume 23, c'est le psaume préféré de presque tous les chrétiens. Moi, souvent, oh, monsieur Gaumont, mon psaume préféré, c'est le psaume 23. Mais qu'en est-il du verset 3, justement? Tu me conduis dans les sentiers de la justice. Ça peut être référé. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on privilégie un psaume au-dessus des autres. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. Ce qui est juste, voilà, je fais ce que Dieu me demande. Est-ce que je fais ce que Dieu me demande? Voilà. Eh bien, Dieu marchera devant vous. Ne dites pas, Dieu marche devant moi, marche devant moi. Ne vous inquiétez pas. Pratiquez la justice et Dieu marchera devant vous. Rappelez quand Michée s'interroge, mais comment faire pour te plaire davantage? Comment faire? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce qu'il faut offrir davantage de torrents d'huile? Est-ce que j'offrirai mon premier-né? C'est une façon de parler. Dieu t'a fait connaître ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Et mes frères et sœurs, voilà le début de la solution, après tout ce travail difficile de remise en question, voilà, allez pratiquer la justice. Alors, mais tu as hérité, fin du verset 4, mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Soyons honnêtes, nous en souffrons longtemps. Eh bien oui, le péché, vous savez, tant qu'il n'est pas réglé, on en souffre. Quelqu'un qui vient de commettre une erreur, s'il demande pardon, la seconde après, il est pardonné. S'il attend 20 ans pour demander pardon, eh bien il sera pardonné au bout de 20 ans. Voilà pourquoi on souffre longtemps du péché. Il y a des chrétiens, moi je le sais, hélas que je le sais. Il y a des chrétiens, ils se traînent des trucs pendant des années. Ils attendent des années avant de régler un problème. Si on a un problème conflictuel, combien de fois, tu es avec Lucas, combien de fois on sait demander pardon? C'est moi qui demande pardon plus ou toi? C'est toi, les deux. Parce que des fois il m'a irrité, parce que des fois je l'ai irrité. Est-ce que c'est normal dans une famille? Est-ce que ça peut arriver? Eh bien, on s'est demandé pardon. Ça a duré combien? Ça dure combien? 5 minutes. Hein? 5 minutes. Moi je viens plus vite que toi. Mais on rit mais c'est la vérité en plus. Est-ce que ça arrive que dans une famille il y ait des petits conflits comme ça? Eh bien voilà. Moi je peux dire devant Dieu que ça n'a jamais duré plus de 10 minutes, un quart d'heure. Pourquoi? Eh bien parce que j'étais dans sa chambre, il est venu dans mon bureau. Papa, je te demande pardon. Mon fils, je te demande pardon. Oui, mais on peut en souffrir longtemps. On peut en souffrir longtemps. C'est écrit, vous savez. Ce n'est pas écrit pour nous ennuyer. C'est écrit pour nous faire réfléchir. Et si vous n'avez pas demandé pardon, eh bien ça fait depuis 3 ans, mais ça fait 3 ans que vous... Voilà, je n'ai pas besoin d'être prophète. Je sais, ça fait 3 ans que vous en souffrez. Le péché, on en souffre longtemps. Et c'est bien sûr notre faute, croyez-moi. Alors, on va passer à la fin, parce que l'heure tourne. Je vous encourage à procéder de la même manière quand vous lisez votre Bible, vous voyez, de prendre un texte et de le méditer de cette façon. Verset 6. « Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi, aussi nous as-tu caché ta face. » Ce verset, vous pouvez l'inverser. Vous avez la solution. Si quelqu'un invoque le nom, « Papa, priez du bout de lèvres, là, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. » Mais des gens qui commencent à chercher le Seigneur, qui commencent à chercher sa présence. Si un homme commence à invoquer le nom, qui se réveille, parce que alors réveiller, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dormir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, monsieur Gros, est-ce qu'on a le droit de dormir un peu? Je dis, mais il faut dormir, il faut dormir. Tu as créé le sommeil. Si vous avez besoin de 7 heures, dormez 7 heures. Moi, avant mon AVC, je dormais 4, 5, 6 heures par nuit. Maintenant, je dors 10 heures par nuit. Le problème, il n'est pas dans la quantité d'heures que vous avez besoin pour dormir. Le problème, c'est une question d'être continuellement éveillé aux choses spirituelles. Être réveillé spirituellement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dormir. Être réveillé, ça veut dire que mon esprit est sensible aux choses spirituelles continuellement. Qui se réveille pour s'attacher. Bien sûr, ce n'est pas se réveiller pour 5 minutes. Vous voyez, c'est s'attacher à Dieu. C'est une chose de s'attacher à Dieu le temps d'une réunion. On peut s'attacher à Dieu le temps d'une réunion. Vous voyez, ça fait 1 heure, 2 heures qu'on est ensemble, 2h10, qu'on a commencé la réunion de prière, la réunion, les chants, etc. Voilà. Mais dans un quart d'heure, vous allez vous retrouver à la maison. Soyez honnêtes. Est-ce que vous serez attaché à Dieu, même si vous êtes en train d'arroser les géraniums parce qu'il fait chaud? Je veux dire, est-ce qu'on peut être attaché à Dieu quand on arrose les fleurs? Bien sûr. On peut être attaché à Dieu sous la couette ce soir, mais sous son petit drap tout léger, sous sa douche, dans sa voiture, dans le métro. Être attaché à Dieu, ça n'a rien à voir avec des lieux, ça n'a rien de géographique, ça n'a rien de temporel. C'est un état de cœur. C'est comme quand on est amoureux. Ça vous est déjà arrivé d'être amoureux? Quand on est amoureux, on pense toujours à la personne. C'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai. À part quand on est obligé de se concentrer sur un travail particulier, mais dès qu'on a fini de se concentrer, tac, de nouveau, voilà. Quand on aime le Seigneur, on est attaché à lui. Et c'est ce que Dieu attend. Il n'attend pas, tiens, alors moi j'étais baptiste, ah, je veux devenir évangélique, c'est plus, mieux. Mes frères et sœurs, c'est ridicule ce propos. Le problème, il n'est pas dans la dénomination, le problème, il est dans le cœur. Je veux faire ce qui est écrit dans ce verset 6 et je veux le méditer, je vais t'invoquer et je vais me réveiller, je vais m'attacher à toi et les conséquences seront extraordinaires, le Seigneur ne nous cachera pas sa face. C'est ce que nous voulons, frères et sœurs. Et c'est à chacun de nous de dire, on va y travailler. Est-ce que vous êtes d'accord pour y travailler? Voilà, Seigneur, je veux m'attacher à toi. Je veux me réveiller. Oui, parce que je vous le répète, Dieu n'a pas de problème avec les pécheurs. Dieu a un problème avec l'Église. Et moi, je vous assure, je réfléchis beaucoup aux réunions que j'ai avec les pasteurs, avec les anciens, pour qu'on travaille vraiment cette notion de sainteté dans l'Église, afin que rien ne vienne faire obstacle à la prière. C'est bien ce que vous voulez, mes frères et sœurs? On a prié, Seigneur, brûle. Enfin, je sais pas, moi je l'ai chanté avec vous. Brûle, c'est dans mon cœur, dans ma vie. Brûle ce qui a besoin d'être brûlé, Seigneur. Afin qu'il n'y ait que ce feu pur et saint qui te glorifiera et qui te bénira. On ferme les yeux quelques instants. Voilà, répondons simplement, il n'y a pas besoin d'un quart d'heure, mais pendant quelques instants, est-ce qu'on peut prendre la décision? Comme on l'a chanté tout à l'heure, la décision de dire, moi de toute façon, je t'adorerai, dans l'épreuve ou dans l'abondance. Voilà, ça c'est une décision. Je pense que plusieurs l'ont fait. Mais est-ce qu'on peut prendre cette décision? Je t'adorerai, ok. Mais je t'obéirai. Je te servirai. Je t'obéirai, mais je pratiquerai la justice. Mes frères et sœurs, Dieu cherche une église. Qu'on soit 3 ou 4, qu'on soit 30, 100, 200, 300, 3000, Dieu n'est pas intéressé par le nombre. Dieu est intéressé par la sainteté. Et dans une église, quand même, je ne sais pas, à moins que vous soyez nouveau, que vous ne soyez pas encore baptisé, que vous découvriez l'évangile, tout ça, vous devez vous mettre en accord avec. Mais si vous êtes baptisé, vous devez pouvoir dire, je veux que le nom du Seigneur soit sanctifié. Et si j'ai attristé le Saint-Esprit, on va régler ces choses. Il va vous aider. Ne vous inquiétez pas. Dieu est là pour nous aider. On l'a lu au début. Dans toute leur détresse, Dieu les a secourus. Alors laissez-moi vous dire que dans tous nos problèmes, Dieu nous secourra. Ça aussi, ce n'est pas un problème pour Dieu. À nous d'être honnêtes. Alors je vais prier, mais j'aimerais que vous, dans votre cœur, vous puissiez dire, Seigneur, que cette prédication soit vraiment ce dont j'avais besoin pour faire en sorte que ton nom soit sanctifié.
afin que nos prochaines réunions, jeudi après-midi, jeudi soir, la jeunesse, le culte de dimanche, les baptêmes de dimanche après-midi, il y ait le ciel ouvert sur Saint-Agne. Et que les pécheurs soient convertis, soient touchés et se convertissent. Notre Père, oui, merci de nous avoir laissé ta parole. Merci du fond du cœur. Que serions-nous devenus si tu ne nous avais pas laissé ta parole dans notre langue? Où serions-nous ce soir? Tu nous fais la grâce de nous retrouver sous ton regard, de partager ces textes, cette prière d'Ésaïe. Seigneur, merci. Oui, nous croyons que tout à nouveau les cieux peuvent se déchirer, que tu peux descendre et que tous les ennemis, tes ennemis ou les nôtres, connaissent ton nom. Seigneur, oui, nous te prions pour les prochaines réunions, mais nous te prions surtout pour que l'Église soit sanctifiée et que nos cœurs soient prêts pour le jour où tu reviendras nous chercher. Seigneur, c'est notre prière. Tu vois les chrétiens qui ont entendu ce message, tous ceux qui l'entendront par le biais d'Internet. Seigneur, s'il te plaît, que dans ce pays, des hommes et des femmes choisissent de se réveiller et de s'attacher à toi, afin que tu ne nous caches plus ta face. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.